Chapitre 3. Après ma défaite cuisante contre Bobby Rush, je me suis accordé quelques mois pour panser mes plaies avant de décider que je devais recadrer mes priorités et repartir de l'avant. J'ai dit à Michel que j'étais conscient que je devais changer d'attitude. Nous attendions un deuxième enfant, et même si je n'étais pas aussi souvent à la maison qu'elle l'aurait souhaité, elle voyait au moins que je faisais des efforts. J'organisais mes rendez-vous à Springfield de manière à pouvoir rentrer plus tôt le soir. J'essayais d'être plus ponctuel, plus présent. Et le 10 juin 2001, un peu moins de 3 ans après la naissance de Malia, nous avons éprouvé la même joie extraordinaire, la même sidération absolue, quand Sacha est arrivée, aussi joufflue et adorable que sa sœur, avec son irrésistible tignasse noire et bouclée. Pendant les 2 années suivantes, j'ai mené une vie plus tranquille, pleine de petits bonheurs ordinaires, satisfait de l'équilibre auquel il me semblait être parvenu. Je prenais un plaisir immense à aider Malia à enfiler son premier collant de danse ou à me promener avec elle dans le parc en la tenant par la main, à regarder la petite Sacha éclater de rire quand je lui mordillais les pieds, à écouter la respiration de Michel ralentir, sa tête posée sur mon épaule quand elle s'endormait au milieu d'un vieux film. Je me suis remis au travail avec diligence au Sénat de l'Illinois et je profitais pleinement des moments passés en compagnie de mes étudiants en droit. Je me suis penché sérieusement sur l'état de nos finances et j'ai mis sur pied un plan pour alléger notre endettement. Le rythme apaisé de mon travail et les joies de la paternité m'ont permis de commencer à envisager l'avenir après la politique. Je pourrais peut-être me consacrer à plein temps à l'enseignement et à l'écriture, ou bien reprendre ma carrière d'avocat, ou encore chercher du travail dans une fondation caritative, comme l'avait jadis imaginé ma mère. Autrement dit, après ma candidature désastreuse au Congrès, j'ai pris du recul. Et si je n'avais pas renoncé pour autant à mon désir d'œuvrer d'une manière ou d'une autre à rendre le monde meilleur, en tout cas je n'étais plus obnubilé par l'idée qu'il fallait à tout prix voir grand pour y parvenir. La résignation qui avait sans doute été la mienne, au début, face aux obstacles que le destin avait dressés sur mon chemin, avait peu à peu laissé la place à un sentiment de reconnaissance pour les nombreuses joies dont il m'avait déjà gratifié. 2 choses, cependant, m'empêchaient de rompre avec la politique. Tout d'abord, les démocrates de l'Illinois avaient obtenu le droit de superviser le redécoupage de la carte électorale de l'État afin qu'elle reflète les nouvelles données du recensement effectué en 2000 grâce à une disposition pittoresque de la Constitution. Elle prévoyait que, en cas de désaccord entre la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates et le Sénat à majorité républicaine, il fallait laisser l'arbitrage au hasard, en tirant un nom de l'un des vieux chapeaux haute forme d'Abraham Lincoln. Avec cette carte en main, les démocrates avaient la possibilité de remanier à leur avantage un découpage électoral favorable aux républicains depuis une décennie, et ainsi de se donner de grandes chances de remporter la majorité au Sénat lors des élections de 2002. Je savais qu'une année de mandat supplémentaire me permettrait de faire passer certains projets de loi, d'obtenir des résultats significatifs pour les gens que je représentais, et peut-être de terminer ma carrière politique sur un bilan plus positif qu'il ne l'était pour l'instant. La deuxième raison avait à voir avec une intuition plutôt qu'un événement particulier. Depuis mon élection, j'essayais de passer quelques jours chaque été à rendre visite à divers collègues dans leur circonscription ici et là en Illinois. Je partais accompagné en général de mon principal collaborateur au Sénat, Dan Shaman, un ancien reporter de l'agence United Press International qui avait d'épaisses lunettes, une inépuisable énergie et une voix de stentor. Nous balancions quelques clubs de golf, une carte routière et 2 ou 3 chemises dans le coffre de ma Jeep, puis nous tracions la route, cap au sud ou à l'ouest, avalant les kilomètres jusqu'à Rock Island ou Pinckneyville, Alton ou Carbondale. Dan était mon conseiller politique en chef, un grand ami et le compagnon idéal pour un road trip. Il était aussi à l'aise dans la conversation que dans les moments de silence, et il aimait autant que moi fumer en voiture. Il avait par ailleurs une connaissance encyclopédique des dessous de la politique. La première fois que nous étions partis en tournée ensemble, j'avais bien vu qu'il appréhendait un peu la réaction des gens dans l'Illinois profond, quand il verrait débarquer un avocat noir de Chicago avec un nom à consonance arabe. « Pas de chemise chic », m'avait-il instruit avant notre départ. « Je n'ai pas de chemise chic. Parfait. Polo et pantalon décontracté, c'est tout. Bien reçu. » Si Dan était inquiet à l'idée que je ne sois pas dans mon élément, ce qui m'avait le plus frappé au cours de nos voyages, c'était au contraire que tout me semblait très familier, que nous nous trouvions dans une foire agricole, dans les bureaux d'un syndicat ou sur la véranda d'un fermier. la façon dont les gens nous décrivaient leur famille ou leur travail, leur modestie et leur hospitalité, leur enthousiasme pour l'équipe de basket du lycée local, les plats qu'ils nous préparaient, le poulet frit, les haricots et les desserts en gelée. Tout cela éveillait en moi des réminiscences de mes grands-parents, de ma mère, des parents de Michel. Les mêmes valeurs, les mêmes espoirs et les mêmes rêves. Ces périples étaient devenus plus sporadiques après la naissance des enfants. Mais la leçon toute simple que j'avais tirée de chacune de ces occasions était demeurée profondément ancrée en moi. J'avais compris que, tant que les habitants de ma circonscription de Chicago et ceux des régions plus reculées de l'Illinois resteraient des étrangers les uns pour les autres, notre vie politique ne pourrait jamais réellement changer. Il serait toujours trop facile pour la classe politique d'entretenir les stéréotypes qui opposaient les Noirs aux Blancs, les immigrés aux Américains de naissance, les intérêts des régions rurales à ceux des grandes villes. Mais si, en revanche, une campagne parvenait à remettre en question les préjugés politiques dominants qui perpétuaient l'image d'une Amérique divisée, alors peut-être serait-il possible de bâtir une nouvelle alliance entre ses citoyens. Les initiés ne pourraient plus jouer sur les dissensions entre tel groupe et tel autre. Des législateurs ne seraient plus obligés de définir les intérêts de leurs électeurs et les leurs de manière aussi étroite. Les médias pourraient focaliser leur attention et fonder leurs analyses en se préoccupant non plus de savoir qui avait gagné, qui avait perdu, mais uniquement de déterminer si nous avions atteint nos objectifs communs. Finalement, n'était-ce pas cela que je recherchais ? Une politique capable d'établir un pont entre les lignes de partage de l'Amérique, raciale, ethnique et religieuse, ainsi qu'entre les divers aspects de ma propre existence. Peut-être était-ce irréaliste de ma part, peut-être ces divisions étaient-elles trop solidement enracinées. Mais j'avais beau essayer de me persuader moi-même du contraire, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'il était trop tôt pour renoncer à mes convictions les plus fortes. J'avais beau me dire que j'en avais terminé, ou presque, avec la vie politique, je savais au plus profond de moi que je n'étais pas prêt à tourner la page. Poursuivant mes réflexions sur l'avenir, une chose m'est apparue avec évidence. Ce n'était pas en me présentant à une élection législative que je pourrais mettre en œuvre la politique de rassemblement que j'avais en tête. Le problème était structurel. Tout dépendait des frontières tracées entre les circonscriptions. Dans une circonscription comme celle où je vivais, dont la population était très majoritairement noire, le positionnement qu'on attendait des hommes politiques se définissait en termes raciaux, tout comme c'était le cas dans de nombreuses circonscriptions rurales, dont la population majoritairement blanche se sentait laissée pour compte. « Comment allez-vous nous défendre face à tous ceux qui ne sont pas comme nous ?» demandaient les électeurs. « Tous ceux qui n'ont pas cessé de nous exploiter et de nous mépriser. » Il n'était certes pas impossible de parvenir à des résultats en partant d'une base politique aussi étroite. L'ancienneté aidant, on pouvait fournir aux citoyens des services de meilleure qualité, faire voter deux ou trois projets qui auraient un véritable impact au niveau local et, en nouant des alliances, essayer d'influencer le débat national. Mais ça ne suffisait pas pour lever les obstacles politiques qui rendaient si difficile d'obtenir une protection sociale pour ceux qui en avaient le plus besoin, de meilleures écoles pour les enfants défavorisés, la création d'emplois là où il n'y en avait pas, tous ces obstacles contre lesquels Bobby Rush devait lutter chaque jour. J'avais compris que, pour faire vraiment bouger les choses, je devais pouvoir parler au plus grand nombre, et parler au nom du plus grand nombre. Et la meilleure façon d'y arriver, c'était de briguer un poste qui me permettrait de représenter l'Illinois tout entier, au Sénat des États-Unis, par exemple. Quand je repense aujourd'hui au culot qui était le mien, pour ne pas dire l'impudence, de vouloir me lancer dans une élection sénatoriale au niveau national, alors que je sortais tout juste d'une défaite cinglante, il n'est pas difficile d'admettre la possibilité que j'étais peut-être tout bonnement animé par une envie désespérée de repiquer au jeu, comme un alcoolique qui trouve toutes les bonnes raisons de se servir un dernier verre pour la route. Sauf que ce n'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Au contraire, plus je ruminais cette idée, plus elle me semblait évidente. Non pas que je fusse convaincu que j'allais gagner, mais je pensais que je pouvais gagner, et que si je gagnais, mon action politique pourrait avoir un véritable impact. Je le voyais, je le sentais, comme l'arrière au football américain qui repère une brèche dans la ligne de défense adverse et qui sait que s'il parvient à s'y engouffrer suffisamment vite et à franchir l'obstacle, le terrain sera ensuite entièrement dégagé et plus rien ne pourra l'arrêter jusqu'à la zone d'en-but. Par ailleurs, je suis arrivé à une autre conclusion tout aussi évidente. Si je ne réussissais pas mon coup, il serait temps pour moi de dire adieu à la politique. et du moment que j'aurai fait tout mon possible, je partirai sans le moindre regret. Discrètement, au cours de l'année 2002, j'ai commencé à soumettre cette idée au banc d'essai. En examinant attentivement la configuration du paysage politique dans l'Illinois, je me suis aperçu que la perspective d'envoyer au Sénat un représentant local noir et quasi inconnu du grand public n'était pas si extravagante que ça. Plusieurs personnalités afro-américaines avaient réussi à accéder à de tels postes de responsabilité, dont l'ancienne sénatrice démocrate Carol Mosley Brown, une femme politique talentueuse, mais dont le manque de rigueur après la vague d'enthousiasme soulevée dans tout le pays par sa victoire lui avait valu de subir une série de revers par sa propre faute, notamment des déboires liés à des opérations financières douteuses. Par ailleurs, le républicain qu'il avait battu, Peter Fitzgerald, était un banquier fortuné que ses opinions très conservatrices avaient rendu assez impopulaire dans un Illinois qui penchait de plus en plus du côté démocrate. J'ai d'abord sondé trois de mes partenaires de poker au Sénat de l'Illinois, les démocrates Terry Link, Denny Jacobs et Larry Walsh, pour savoir si, à leurs yeux, j'avais la moindre chance dans les enclaves blanches, rurales et populaires qu'ils représentaient. D'après ce qu'ils avaient vu quand j'étais venu dans leur circonscription, ils pensaient que oui, et ils étaient prêts à me soutenir si je me lançais. Même son de cloche du côté d'un certain nombre d'élus blancs progressistes représentant les quartiers aisés au bord du lac Michigan à Chicago, ainsi que d'une poignée d'élus indépendants issus de la communauté latino. J'ai demandé à Jesse Jackson Jr. s'il comptait se présenter, et il m'a répondu non, ajoutant qu'il était prêt lui aussi à m'apporter son soutien. Le chaleureux Danny Davis, troisième député noir de la délégation de l'Illinois à la Chambre des représentants, était également partant. Quant à Bobby Rush, je ne pouvais guère lui en vouloir d'accueillir mon projet de candidature avec moins d'enthousiasme. Mais le soutien qu'il me fallait absolument obtenir était celui d'Emile Jones, qui était désormais bien placé pour devenir le président du Sénat de l'Illinois, et donc l'une des trois personnalités politiques les plus influentes de l'État. Je suis allé le voir dans son bureau et je lui ai fait remarquer qu'aucun noir ne siégeait au Sénat des États-Unis et que les idées politiques pour lesquelles nous nous étions battus ensemble à Springfield gagneraient à être défendues à Washington. S'il aidait l'un des siens à se faire élire au Sénat, ai-je ajouté, cela ne manquerait pas d'exaspérer la vieille garde républicaine blanche de Springfield par laquelle il s'était toujours senti méprisé. Et je crois qu'il a été particulièrement séduit par cette perspective. Avec David Axelrod, j'ai opté pour un angle d'attaque différent. Ancien journaliste devenu conseiller en communication, qui comptait parmi ses clients Harold Washington, l'ancien sénateur Paul Simon et le maire Richard Daley, Axe avait la réputation d'être malin, impitoyable et très doué pour la publicité. J'admirais son travail et je savais que l'avoir à mes côtés donnerait de la crédibilité au début de ma campagne, pas seulement au niveau de l'Illinois, mais auprès des donateurs et des observateurs à l'échelle nationale. Je savais aussi qu'il ne serait pas facile à convaincre. « C'est un sacré pari », m'a-t-il lancé le jour où nous nous sommes retrouvés pour déjeuner dans un bistrot du quartier de River North. Axe avait été l'une des nombreuses personnes à m'avoir mis en garde contre Bobby Rush. Entre deux généreuses bouchées de sandwich, il m'a dit que je ne pouvais pas me permettre une deuxième défaite. Et il doutait qu'un candidat dont le nom rimait avec Oussama ait beaucoup de chances d'obtenir les suffrages de l'Illinois rural. Par ailleurs, il avait déjà été approché par au moins deux autres candidats sérieux, Dan Hines, le secrétaire aux comptes du Trésor public de l'État, et Blair Hull, un multimillionnaire à la tête d'un fonds spéculatif, qui semblaient tous les deux beaucoup mieux placés que moi pour gagner. Donc, si jamais il acceptait de me prendre comme client, ça risquait de coûter une somme rondelette à sa boîte. « Attends que Rich Daley prenne sa retraite et présente-toi à la mairie », a-t-il conclu en essuyant un peu de moutarde sur sa moustache. « C'est le pari le plus sûr. » Il avait raison, évidemment, mais je ne voulais pas jouer ma main de manière conventionnelle. Et je sentais en Axe, sous tous les sondages, les synthèses stratégiques et les argumentaires qui constituaient les outils de base de son métier, quelqu'un qui se voyait comme autre chose qu'un simple mercenaire. Quelqu'un qui pouvait être un véritable alter ego. Au lieu de débattre avec lui des mécanismes de campagne, j'ai fait appel à ses sentiments. Est-ce que ça t'arrive de penser à JFK et à Bobby Kennedy, à ce don qu'ils avaient pour faire appel à ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous, lui ai-je demandé. Ou à ce qu'ont dû éprouver tous ceux qui ont aidé Johnson à faire passer la loi contre les discriminations raciales, ou Roosevelt à instaurer le système de protection sociale, et qui avaient conscience qu'ils avaient amélioré la vie de millions de personnes. Il n'y a aucune raison pour que la politique soit nécessairement conforme à l'image que s'en font les gens. Ça peut être autre chose. Les imposants sourcils d'Ax se sont dressés sur son front tandis qu'il me dévisageait. Il devait paraître évident que je n'essayais pas seulement de le convaincre lui, mais que j'essayais de me convaincre moi-même. Quelques semaines plus tard, il m'a appelé pour m'annoncer que, après en avoir discuté avec ses associés et avec son épouse, Suzanne, il avait décidé de me prendre comme client. Avant que j'aie eu le temps de le remercier, il a ajouté une condition. « Ton idéalisme est touchant, Barack, mais à moins de lever 5 millions de dollars pour faire passer le message à la télé, tu n'as pas la moindre chance. » Dès lors, je me sentais enfin prêt à consulter Michel. Elle était à présent directrice exécutive des affaires sociales du centre hospitalier de l'Université de Chicago, un travail qui lui permettait une plus grande flexibilité, mais qui l'obligeait toujours à jongler entre d'importantes responsabilités professionnelles et l'organisation des loisirs et de la vie scolaire des filles. J'ai donc été un peu surpris de l'entendre suggérer, au lieu de me répondre « Ah ça non, Barack, hors de question », qu'on en discute avec certains de nos amis les plus proches, dont Martin Esbitt, un homme d'affaires éminent dont l'épouse, le docteur Anita Blanchard, avait accouché Michel de nos deux filles, et Valérie Jarrett, une avocate brillante et au carnet d'adresses fourni, qui avait été la patronne de Michel au service d'urbanisme de la ville et était devenue comme une grande sœur pour nous. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que Michel avait déjà contacté Marty et Valérie et les avait chargés de me faire renoncer à ce projet complètement stupide. Nous nous sommes retrouvés chez Valérie, dans le quartier de Hyde Park, et pendant notre long brunch, j'ai exposé mon raisonnement, les divers scénarios que j'envisageais pour obtenir la nomination démocrate et les raisons pour lesquelles cette campagne serait différente de la précédente. Devant Michel, j'ai reconnu sans détour que cela me forcerait à être loin de la maison pendant de longues périodes. Mais c'était la dernière fois, promis. Soit je remportais mon pari, soit c'était fini. Si je perdais, nous en aurions terminé pour de bon avec la politique. À la fin de mon petit discours, Valérie et Marty étaient convaincus, au grand dépit de Michel sans doute. Ce n'était pas une question de stratégie pour elle, mis à part le fait que la perspective d'une nouvelle campagne l'enchantait à peu près autant que de se faire arracher une dent de sagesse. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était l'impact qu'elle aurait sur nos finances, qui ne s'était pas encore tout à fait remise de la précédente. Elle m'a rappelé que nous avions chacun un emprunt étudiant à rembourser, un emprunt immobilier et des dépassements de crédit bancaire. Nous n'avions pas encore commencé à mettre de l'argent de côté pour les études des filles, sans compter que pour me présenter au Sénat, je devrais mettre entre parenthèses ma carrière d'avocat afin d'éviter les conflits d'intérêts, ce qui diminuerait d'autant nos revenus. Si tu perds, nous serons encore plus dans le rouge. Et qu'est-ce qui se passe si jamais tu gagnes? Comment on est censé entretenir deux foyers, un à Washington et l'autre à Chicago, alors qu'on a déjà du mal à s'en sortir avec un seul? J'avais anticipé cette réaction. Si je gagne, ma chérie, ça va attirer l'attention au niveau national. Je deviendrai le seul Afro-Américain au Sénat. Comme je serai plus en vue, je pourrai écrire un autre livre, qui se vendra très bien, et ça nous permettra de couvrir les frais supplémentaires. Michel a laissé échapper un éclat de rire. J'avais gagné un peu d'argent avec mon premier livre, mais rien comparé aux sommes nécessaires pour éponger les dépenses entraînées par le projet dont je parlais. Aux yeux de ma femme, comme aux yeux de la plupart des gens, j'imagine, un livre dont pas une seule ligne n'avait encore été écrite ne constituait pas précisément un projet financier. « Si je comprends bien, » m'a-t-elle rétorqué, « tu as des haricots magiques plein les poches. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu as plein de haricots magiques, tu vas les planter, et demain matin, une gigantesque tige de haricots aura poussé jusqu'au ciel, et tu vas grimper tout en haut, tuer l'ogre qui vit dans les nuages, et ensuite tu vas nous rapporter à la maison une poule aux œufs d'or. C'est bien ça. » Quelque chose comme ça, oui. Michel a secoué la tête et s'est tourné vers la fenêtre. Nous savions tous les deux après quoi je courais. Un nouveau virage. Un nouveau pari. Un nouveau pas en direction de quelque chose que je voulais et dont elle ne voulait pas. « Très bien, Barack, » a dit Michel. « Mais c'est la dernière fois. Et ne compte pas sur moi pour faire campagne avec toi. D'ailleurs, ne compte même pas sur ma voix. »